Je voudrais quand même saisir au vol un point. Tu dis si les instruments sont simples et traçables, à ce moment-là, on ne risque pas de dérive à la subprime, mais on va créer un fonds de cuve quand même, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que on va financer des opérateurs associatifs ou autres en fonction de leurs résultats. Donc, on va avoir affaire au problème du risque adverse. Elles vont sélectionner les personnes et les dossiers qui vont donner les meilleurs résultats et les moins bons vont rester au
Ah
fond. C'est un
oui.
des risques de
Je
l'intervention
l'ai
du
souligné, c'est le
privé.
risque principal. Mais je dis ensuite, il pourrait y avoir un deuxième risque qui est que la financiarisation de tout
Oui,
ça pourrait
c'est au deuxième
entraîner.
degré, j'allais dire ça.
Voilà, ensuite. Mais le risque principal, c'est que. Mais je me permets juste un commentaire. C'est un risque assez connu, par exemple, dans l'assurance. Dans l'assurance, il a été archi-prouvé que une assurance maladie, par exemple, plus elle est large, plus efficace elle est.
C'est pour ça que la sécurité
C'est
est
pour
universelle.
ça que la sécurité sociale nationale et unique est le système le plus efficace d'assurance maladie qu'on peut s'imaginer. L'assurance privée va essayer de sélectionner les meilleurs clients et va laisser pour compte les moins bons. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont obligés d'inventer, ou ils se croient obligés d'inventer, Medicare. Voilà, donc ce phénomène est très très général. Et je pense que c'est lui le principal danger à l'œuvre quand on parle de ce dont nous parlons
Bien sûr.
sous le nom de code financiarisation du social. Voilà.
Juste pour donner des exemples très concrets et très précis, c'est par exemple un des effets qu'a provoqué le plan Borloo sur les services à la personne, avec les avantages fiscaux qui y étaient liés, hein, le régime TVA, etc. Ça fait exploser le marché des Acadomia et autres cours particuliers. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet pour l'aide au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, surtout quand elles étaient pauvres, puisqu'elles n'étaient pas solvables. On a la même problématique aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les EHPAD, donc qui sont les structures d'hébergement médicalisées pour les personnes dépendantes. Et Corian et les autres, ça marche très bien, mais ils ne prennent que les gens qui sont capables de payer, je sais pas, 3 000 € par mois pour y être. Voilà. Et puis les autres, bon, alors après, on tombe dans d'autres problématiques, mais qui ne couvrent pas ces niveaux de charges. Dernier exemple que je voudrais citer, et c'est très intéressant parce que ça renvoie à un autre débat autour d'un concept qui est très cher à l'Union européenne, c'est le service universel. C'est-à-dire qu'on essaye de compenser. Et alors donc, c'est pour revenir sur un autre point dont j'avais dit que je parlerai, c'est le problème des personnes fragiles. Alors, c'est dans le monde bancaire, la définition du service universel pour les personnes fragiles. Et l'exemple concret dont je voulais parler, c'est bien entendu les pauvres ou les gens en situation précaire. Alors moi j'en parle parce que je parlais tout à l'heure des 120 000 personnes majeures protégées que nous gérons. Ils sont pas tous pauvres, hein, bon, mais ils ont en tout cas une fragilité qui est leur statut juridique. Mais il y a un autre exemple qui est très typique parce que c'est le fait que les opérateurs privés décident de ne plus rester sur un champ. C'est par exemple pour les banquiers le métier de caisse. C'est-à-dire que je donne cet exemple très concret. Comme nous avons 100 000 majeurs protégés dans presque toutes nos agences, nous avons une caisse. Parce qu'un majeur protégé, il a un juge, des tutelles, qui a défini qu'il a le droit d'avoir, je sais pas, 20 €, 40 € par semaine. Nous, on leur donne des cartes de retrait pour aller au GAB. Mais enfin bon, c'est plein de joie. Ils perdent la carte, ils perdent le code. Enfin bon. Et donc, généralement, tout ça se termine à la caisse de la banque. Bon. Et puis, je raconte cet épisode, on a eu un incident des locaux dans notre agence de Limoges, il a fallu fermer en catastrophe, donc fermer la caisse. Et on s'est dit, bah, on ne peut pas laisser nos pauvres majeurs protégés sans un service de caisse. On a fait tout le tour de la place de Limoges, il n'y a plus une banque qui tienne une caisse. Il reste la poste. Et donc là-dessus, c'est pour ça que je voulais faire référence aussi à cet article qui est très intéressant. Je renvoie pour ceux que ça intéresse, c'est un truc qui a été publié dans le compte-rendu des activités marchandes sur le marché. C'était un colloque de Cerisy organisé par Armand Achuel. Et c'était la communication qu'avait faite Madame Urgon, donc éditeur Urgon, sur les services aux clientèles en situation de fragilité. Une activité marchande pour l'intérieur, l'exemple de la Poste. Et aujourd'hui, on a là l'exemple typique du fonds de cuve. Puisque aujourd'hui, ça arrange tout le monde, entre guillemets, enfin, sauf peut-être les intéressés, de considérer que le seul outil financier pour le quotidien pour les personnes fragiles, c'est le livret à la poste. Point. Et alors, bien sûr, Bruxelles dit, ah ben, j'ai défini un service universel bancaire. Sauf que vous pouvez aller taper à la Banque de France, ah, on va vous envoyer dans une banque, mais cette banque n'a pas de caisse. Donc, puisque vous n'avez pas le droit d'avoir de chéquier, de machin, et vous, vous retomberez à la poste. Voilà.
Bien, on va passer au dialogue avec la salle. La première question étant toujours la plus difficile, évidemment.
Bonsoir, Éric Le Sueur, je suis en charge de l'innovation sociale chez Veolia Environnement et en particulier je m'occupe du partenariat que nous avons avec Mohamed Younous sur le social business dans l'eau au Bangladesh. Et je voulais moi vous poser une question à propos de cette opposition publique-privée, débat récurrent, dans lequel vous avez, monsieur, essentiellement opposé l'action des entreprises privées à celle de l'État. Et on n'a pas du tout évoqué le rôle des collectivités locales, qui ont un rôle, me semble-t-il, essentiel sur les questions qui nous intéressent. Et en particulier, moi, il me semble qu'il y a un espoir à avoir sur l'efficacité des actions des entreprises privées, quelles qu'elles soient, dans un contexte local, à partir du moment où l'acte marchand est lui-même porteur d'une efficacité publique. Et je suis un peu surpris de cette opposition, finalement, vous dire que le fait qu'une entreprise privée s'implique dans un champ social est par définition limitée à son intérêt, qui par définition serait opposé au bien public. C'est une équation à laquelle je n'adhère pas tout à fait, et je voulais vous provoquer, puisque vous avez utilisé le mot tout à l'heure, sur cet aspect-là.
Oui, là, je me sens concerné, j'ai dû mal me faire comprendre. Bon, d'abord, je pense qu'une entreprise privée soumise à une exigence de rentabilité des capitaux proportionnelle au risque qu'elle prend est soumise à cette exigence. Voilà, bon. Elle envisage d'autres aspects de son activité, mais toujours par rapport à cette exigence, y compris dans la façon dont elle construit son image de responsabilité sociale et environnementale, etc. Et c'est une très bonne chose. Il y a une pression publique pour que les entreprises soient respectueuses dans ces deux domaines. Et elles répondent à cette pression publique en faisant leurs meilleurs efforts. Bon. Et donc, quand une entreprise privée produit un bien ou un service utilisé par le grand public, payé en partie par lui, payé totalement par lui, ou complètement gratuit, quand j'ai dit qu'elle était en rapport avec l'État, pour moi, l'État, c'était l'État et les collectivités territoriales selon l'échelon du problème. On sait très bien en France que la distribution d'électricité et d'eau, c'est l'échelon territorial, le transport, c'est l'échelon national, etc. etc. Bon. Donc, il faut partir non pas d'une opposition d'intérêts, mais il faut voir que l'intérêt et donc le comportement d'une entreprise prestataire d'un service commandé par une collectivité territoriale ou l'État est ce qu'il est, et l'intérêt de l'État est autre. Tout l'objet du partenariat public-privé, c'est de trouver des contrats, toujours imparfaits, qui lient les deux partenaires pour qu'ils soient satisfaits tous les deux, et se poser la question ensuite des effets que ça a. Moi, j'ai souligné que très souvent, on regarde l'efficacité, et c'est vrai que ça peut être plus efficace, pour des raisons qu'on sait, on regarde moins les effets sur l'inégalité. Et on a malheureusement très souvent un trade-off qui est que ce qu'on gagne en efficacité, on le perd en inégalité, soit par ce phénomène d'anti-sélection, de sélection adverse que j'évoquais, qui fait que avant l'État faisait le même service pour tous, et tous y avaient plus ou moins accès, alors que maintenant on a des services qui se différencient inévitablement. Donc certains se payent des services beaucoup plus élaborés et d'autres n'ont plus les moyens de se payer ce qu'ils recevaient avant. Voilà, c'est tout.
Moi, je voudrais compléter ce que vous dites, monsieur, mais en répondant que ce soit l'État ou collectivité locale, pour mon avis, c'est pas le sujet. En revanche, je voudrais montrer la problématique qui est derrière la mise en concurrence des opérateurs privés lucratifs et des opérateurs privés non lucratifs, qui est le problème du bargaining power. De pouvoir de négociation par rapport à la puissance publique. Et c'est un sujet que je connais bien sûr, dans mon champ, on va prendre toujours le champ du médical. Donc je laisse de côté le problème de l'hôpital public et je vais me mettre en situation de comparer qu'est-ce qu'il se passe historiquement dans ce pays entre les cliniques privées lucratives et les cliniques privées non lucratives. En fait, tout ça s'appuie sur un raisonnement prétendument imparable, qui est globalement ce que j'appelle la doctrine de la Cour des comptes, qui est le bon usage de l'argent public. Et qui consiste à dire, bien sûr, il faut l'efficacité, il faut que j'obtienne le meilleur rendement, meilleure efficacité de chaque euro public qui va passer chez l'un ou chez l'autre. Donc, on est dans cette logique de mise en concurrence. Ce n'est pas une mise en concurrence tous les ans, parce que, bien évidemment, clinique, une fois qu'on l'a construite, on en a pour un certain temps. Mais il y a cette mise en concurrence, et je l'ai vu. Alors, historiquement, ça se passait au travers des logiques de tarification au prix de journée, mais peu importe que ce soit les modalités de tarification. Il y a d'un côté la clinique privée lucrative qui arrive et qui dit, voilà, moi, pour telle pathologie, enfin, bon, etc., c'est tant du prix de journée. Et je sors un coût complet. Et dans mon coût complet, il y a la rémunération de mon capital. Et puis, il y a l'opérateur privé non lucratif. Et on lui dit, ah ben non, toi, tu ne vas pas tout de même me demander une rémunération du capital, puisque tu es non lucratif. Et c'est là où on commence à voir les effets pervers du concept de non lucrativité à la française. Et puis alors, le secteur lui-même en a rajouté. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que globalement, on a été dans des secteurs où pendant longtemps, et l'exemple mutualiste est très typique, comme il y avait imbrication entre l'activité d'assureur et l'activité de gestionnaire, bah, c'était la trésorerie, le fonds de roulement qui finançait le haut de bilan. Hein ? Alors que l'activité médicale est à haute intensité capitalistique. Moi, je veux bien, mais c'est même très difficile de faire sans intensité capitalistique dans ce domaine. Et là, je l'ai vécu, c'est... Donc, l'association ou la congrégation, c'est vraiment dire, ah ben non, attends. Moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Et donc, il fallait que ça rentre dans des prix de journée alignés sur le public. Parce que là aussi, ça renvoie à d'autres questions. Parce que l'État ne valorise pas correctement, me semble-t-il, la problématique du coût, du renouvellement, de la formation brute du capital fixe. En tout cas, dans le secteur de l'enseignement d'une façon générale, etc. Et donc, on faisait passer les tarifs en disant, bah écoute... t'as qu'à étaler ta durée d'amortissement à 50 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, ça passe plus. Mais l'État n'est pas propriétaire des bâtiments. Et on dit aux gens de l'association, démerde-toi maintenant pour rénover ta clinique. Je rappelle qu'une clinique, c'est d'abord de bâtiments industriels. Hein. Ça n'a rien à voir avec de l'immeuble haussmannien. Mais on est dans la même problématique dans le secteur public. Hein. Et donc aujourd'hui, on est un pays où... on investit, mais on ne se pose pas la question des coûts de fonctionnement ex post. Et donc aujourd'hui, on a un secteur privé non lucratif qui est pris à la gorge. Et donc moi, je vous mets en alerte. On est dans un pays où, pour d'autres raisons, parce qu'on a fait changer les règles du jeu sur la tarification dans le secteur médical, les grands opérateurs qui avaient, étrangers d'ailleurs, les grands fonds immobiliers qui avaient acheté des cliniques en France privées, les vendent parce que ça n'a plus craché assez. Mais il n'y a personne pour pouvoir les acheter en face. Ça va être assez cocasse, si on peut dire, entre guillemets. Et donc, ça, c'est la question de fond derrière ça. C'est celui du pouvoir de négociation. Parce que, bien évidemment, mais c'est pour ça que comme vous êtes dans le secteur de l'eau et la délégation de services publics autour de l'eau, etc., c'est un vieux débat, parce que la France est défendresse du service public. Mais enfin, c'est nous qui avons inventé la concession dans le secteur des eaux. Et les entreprises privées que vous êtes avaient toujours expliqué que vous ne pouvez pas descendre en tout tel prix, parce que sinon, vous n'aurez pas d'actionnaire et vous crèverez. En revanche, les associations ont dit « Ah ben non, toi, on s'en fout. Toi, tu n'as pas la contrainte de l'actionnaire. » Et donc, c'est un deuxième élément sur lequel je vous me regarde. Mais comment on va sortir de notre dilemme ? Soit on dit « Bah attends, je dois avoir une juste rémunération à l'équivalent de mon concurrent opérateur privé. » À ce moment-là, on va te dire « Attends, t'es plus un non lucratif. » Donc, je pense qu'on est dans un dilemme relativement compliqué.
Moi, je ne comprends pas comment le secteur non lucratif peut croire qu'il va pouvoir prospérer, enfin, se développer, s'il ne gagne pas d'argent. Alors, on ne va pas appeler ça lucratif, mais s'il ne peut pas accumuler.
Bien sûr.
Il faut qu'il puisse accumuler. Alors là, dans ce cas précis dont on vient de parler, pour renouveler ses murs, mais pour inventer, pour innover, pour payer des gens qui ne soient pas au charbon tous les jours... C'est appliquer deux règles, des règles comptables complètement différentes à deux organisations qui ont le même besoin, qui est de mettre de l'argent de côté pour croître, se développer, innover, etc. C'est une aberration totale.
Mais c'est vrai que ça va loin. L'École de Paris est une petite association qui fait des résultats positifs malgré tout assez souvent. Et je me rappelle qu'au début, je disais on va appeler ça bénéfice. Ah non, on ne peut pas mettre bénéfice pour une association. Je dis pourquoi ? On va mettre résultats positifs. Ah bon ? Heureusement, de temps en temps, on faisait des déficits. Alors ça, on a le droit. Mais bénéfice, c'est un mot tabou, c'est un mot sale hein, dans le monde non lucratif, ce qui est notre cas, en France. Je ne sais pas comment c'est à l'étranger.
Que vous dites là sur les bénéfices, par exemple, sur le secteur privé non lucratif gestionnaire, si vous dégagez un excédent, l'année suivante, on vous rabiote encore plus votre... Bon, donc voilà. Et parce que c'est de la saine gestion de l'argent public. La saine gestion de l'argent public, c'est que ces gens-là doivent travailler sur le fil du rasoir. C'est assez bluffant. Et si jamais vous avez même une trésorerie, alors, vu les contraintes de finances publiques dans lesquelles on est, maintenant, on vous la pique. On trouve des moyens pour vous la piquer, quoi. Et donc, moi, je mets en garde. Alors, parce que c'est un des points aussi que je voulais pouvoir évoquer avec vous. Nous sommes un des leaders dans le financement en tant que banquier, du financement long, hein, du crédit d'investissement, de tous ces secteurs gestionnaires de maisons pour personnes handicapées, cliniques, etc. Alors, après tout, passer du crédit bancaire classique à du social impact, machin, pourquoi pas ? La question, c'est bien entendu la question du repaiement. Même si on dit demain, je placerai des social impact investment bonds auprès de braves gens qui accepteront de se faire rémunérer encore moins que moi banquier, très bien, enfin, je veux dire, moi, c'est pas là mon point. La question qu'on a aujourd'hui, c'est à la fin des fins, il faudra bien que quelqu'un repaie. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup de patrimoine dans la structure, c'est forcément l'opérateur public, sous une forme ou une autre. Et donc, à ce moment-là, on a deux difficultés qui vont apparaître, me semble-t-il, pour savoir si ce marché, entre guillemets, pourra un jour exister en France. C'est d'abord, bon, bah, ça on connaît, c'est un problème classique, c'est comment, du fait de l'annualité budgétaire, l'État ne s'estime jamais lié par un engagement dans la durée sur la fixation des prix, en particulier dans ce secteur-là. Et ça, c'est une grosse différence avec les domaines historiques des délégations de services publics. On est sur des contrats de concession où il y a des normes très précisément fixées de fixation du prix et d'évolution des tarifs, etc. Sauf la théorie de l'imprévision, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui conduise à les remettre en cause. Deuxième point, bien sûr, important, c'est cette capacité macroéconomique. Alors après, ça reconduit à un métier qu'on fait nous d'ailleurs. C'est quelle notation, quelle appréciation on se fait de la commune ou du département ou du je sais pas quoi qui finance. Et voilà, la contrainte de finances publiques va énormément peser. Alors vous me direz, si je regarde l'Angleterre, honnêtement, je pense pas que la situation de finances publiques soit bien meilleure que la situation française. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche en Angleterre et pas en France ? C'est que je pense que, dans la vision britannique, l'opérateur public ne change pas sa... My word is my bond. C'est ce qu'on dit à la City, c'est peut-être vrai, peut-être d'ailleurs, pour les opérateurs publics. Et apparemment, en tout cas, vu dans les champs locaux, les gens n'ont pas le sentiment que ce soit un sujet aussi prégnant que nous, du côté français. Mais c'est une question que je me pose. Hein. Est-ce qu'on pourra voir ce marché exister en France ?
La question se pose vraiment sérieusement. Et même, on peut se poser la question de savoir si ça va rester autrement qu'anecdotique en Grande-Bretagne, aux États-Unis.
Ah non, ça va se développer.
Quel est le risque ? Le risque, c'est que l'État ne tienne pas ses engagements.
Ah, voilà.
Voilà, on peut dire que ce risque est une certitude, mais quelle est l'ampleur du risque ? Oui. Voilà. Si ce risque, en plus, on ne peut pas le sécuriser, enfin, si on ne peut pas avoir d'engagement de l'État de 20 ans ou de 30 ans, comme ont obtenu les producteurs d'électricité éolienne qui n'auraient pas pris le risque de mettre en œuvre des éoliennes si on n'aurait pas garanti un prix pendant 30 ans. Et on peut d'ailleurs évaluer ce que ça va coûter si, pendant ce temps-là, le prix du nucléaire reste bas, ce que va coûter cette différence. Et c'est phénoménal, c'est 40-50 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est un an d'approvisionnement en combustible fossile de toute la France pour avoir quelques éoliennes. Bon. Moi, je ne vois pas des investisseurs autres que des gens qui trouvent ça amusant, chic, philanthrope, distrayant, prendre des risques pour des grosses sommes de ce type. Parce que ça n'existe pas en finance. Hein, mais c'est plus que des junk bonds. Vous avez une garantie de... Si votre association réussit à tenir son quota de réinsertion l'année prochaine, vous savez que l'État donnera tant par réinsérer. Mais l'année d'après, le temps par réinsérer peut varier de 20%. Ne serait-ce que ça. En termes mathématiques, vous avez une progression du revenu qui peut varier de plus ou moins 20% aléatoirement, donc un processus de Markov, pour ceux qui savent, de plus ou moins 20% chaque année. Ça exige un rendement de 30%, ça. Personne ne met son argent là-dedans. C'est un instrument spéculatif, ça. Voilà. Alors voilà pourquoi je pense que, où l'État trouve le moyen de dire « j'engage solennellement des finances publiques et je m'engage à payer tant par reclassé ou tant par délinquant évité, comme aujourd'hui un opérateur télécom achète un site tant par client, 50 euros. Le site My Little Paris est vendu pour 50 euros le client. Donc, comme il en avait 1 million, vous voyez que ça fait pas mal d'argent pour les deux jeunes filles qui ont créé ça il n'y a pas très longtemps. C'est un site de journaliste, vous ne savez pas quoi faire à Paris. Vous avez... Donc, tant le client. Tant le branchement, ce sera tant le délinquant sauvé. Et si ce temps est susceptible de varier, si l'État n'est pas capable de s'engager là-dessus, je pense que ça ne se développera pas. Moi, je ne suis pas en prendre le pari ce soir. Je viens d'y penser. Là, mais
on est loin,
le risque est trop gros.
On est loin de ce que ceux ont annoncé. C'était annoncé dans une conférence à Paris. Certains prétendent que dans 10 ans, dans le monde, ça fera 1000 milliards de dollars.
Il y aura des garanties. On aura créé des garanties. Et à ce moment-là, oui, ça peut augmenter.
J'ai réfléchi à des documents que m'a donné Jean-Louis Bancel, à Charles Gide, et des textes où il parlait, lui, Jean-Louis Bancel, et Charles Gide aussi, du pouvoir de l'utopie. C'est-à-dire finalement, tous les dispositifs qui ont été créés au XIXe siècle avaient pour but de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux, et je ne suis pas sûr que l'État avait les moyens de s'engager à l'époque. Et d'ailleurs, Charles Gide a été le professeur au Collège de France d'économie sociale. C'est-à-dire qu'au fond, il a développé les idées qui ont été à l'origine du mouvement, de tous les mouvements dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a attiré les gens? C'est pas l'État, c'est une espèce de croyance collective. Donc, autrement dit, la question aujourd'hui, est-ce que vous avez dit dans un de vos papiers que vous étiez défenseur de l'utopie, que c'est l'utopie qui fera avancer le monde? Alors, quelle est l'utopie qui pourrait résoudre les petits problèmes, donner les garanties que l'État n'est plus capable de donner?
C'est intéressant parce que par rapport à ce qui a été dit là par M. Giraud, je pense qu'il y a une autre hypothèse. C'est une autre hypothèse qu'on a connue historiquement, mais j'y reviendrai. Et c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En fait, c'est la mobilisation des biens de main morte. C'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai envoyé la doc sur la Good Bank, la Good Society. En fait, les Anglais, qui sont plus malins que tout le monde, ont fait une découverte à propos du krach financier, c'est qu'il y avait une richesse cachée dans les banques, des biens de main morte, qui étaient les comptes bancaires inactifs. Les gens qui sont morts et qui ont laissé un solde sur leur compte bancaire. Et donc ce sont des biens de main morte, enfin c'est comme ça que je vais les appeler. Et donc ils ont dit, on va prendre cet argent puisqu'il n'appartient pas à la banque. Et puis on ne sait plus à qui ça appartient. Donc on va les prendre et on va les mobiliser. Enfin, ça va servir de soubassement. Ça revient à la question qui était évoquée tout à l'heure, un peu indirectement, sur la problématique des monnaies locales. C'est comment amorcer la pompe à travers mécanismes de garantie, je ne sais quoi. Et donc ils ont dit, on va créer la Good Society. Alors, au début, ils avaient pensé Good Bank, puis après ils se sont dit, oh, bon, on va pas mettre Bank, Good Society. Présidée par Sir Ronald Cohen, qui est le même d'ailleurs qui pilote le groupe du G8 sur la réflexion sur le Social Impact Investment, qui est l'homme qui a promu et développé le concept du capital développement, disons, pour faire simple. Et donc ça, c'est une hypothèse. Et c'est intéressant.
Ça représentait beaucoup comme fonds.
Alors, ça devait faire miraculeux. Ils ont réussi, je crois, à trouver 1 milliard de livres sterling pour le moment. Alors, c'est même très intéressant parce que qui dit mobilisation des biens de main morte, c'est de se dire, mais attends, ça me rappelle quelque chose, nous, dans notre histoire. Ça s'appelle nationalisation des biens du clergé et création des assignats. Est-ce que c'est parce que ça a été un échec historique pour diverses raisons qu'il faut penser que ce modèle-là ne peut pas marcher? Mais moi, ce que je dis, c'est que les Anglais, ils sont tellement géniaux qu'ils ont réinventé la caisse des dépôts et consignations. C'est tout. Parce que, je rappelle que récupérer des biens en déshérence en France, alors c'est pas tout à fait la caisse des dépôts, enfin c'est un peu plus subtil, mais enfin bon, ça va à la caisse des dépôts, pour faire simple. D'ailleurs, c'est une des questions qui est en train de se poser aujourd'hui sur les contrats d'assurance-vie en déshérence. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresserait, à un rapport de la Cour des comptes de l'été dernier sur combien il traîne de biens de main morte chez les assureurs et chez les banquiers, parce qu'il y a aussi la même question, bien sûr, chez les banquiers, et il faut les envoyer à la caisse. C'est pour ça que un des opérateurs historiques sous-bassement de l'activité du secteur associatif et du secteur de l'économie sociale en France, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Là encore, je reboucle la boucle. Quand on a voulu créer le marché des trucs carbone en France, sur quoi on l'a appuyé? Sur la Caisse des dépôts. Bon, après, l'affaire n'a pas formidablement bien tourné pour des tas d'autres raisons, et entre autres, c'était les problèmes de fraude à la TVA qui ont été associés. Mais donc, je pense qu'il y a cette hypothèse qu'il faut regarder, mais ça revient à mobiliser du capital social planqué sous les matelas, d'une certaine façon. Hein. Et on retombe sur le vieux phénomène, qui est un phénomène incontournable, sans doute, enfin en tout cas classique, c'est comment mobiliser de la richesse dormante, parce que c'est ça des biens de main morte, c'est de la richesse dormante, pour la réinjecter dans un circuit économique. Et c'est pour ça que c'était intéressant que vous parliez des monnaies locales, on n'en a pas parlé ce soir. Nous, Crédit Coopératif, on est très impliqués sur ce sujet des monnaies locales. Je suis intervenu 2 fois cette semaine autour de cette thématique, mais c'est très intéressant, parce que ça renvoie à quelle est la fonction de la monnaie, enfin bon, etc. Mais c'est bien sûr toujours cette idée de faire circuler l'argent pour créer de la richesse. Mais avec cette idée de l'anticipation dans le métier de banquier, parce que c'est toujours le vieux débat, est-ce que tu... Moi, en AG, puisque j'ai la joie d'être une banque coopérative, j'ai même quelques sociétaires qui... C'est leur grande question. Est-ce que vous créez de la monnaie ? Grande angoisse. Ma réponse, c'est oui que je crée de la monnaie. À un moment, ça reboucle. Et quel est le bon excédent de création de monnaie ? C'est bien sûr la capacité de repaiement. Voilà. Et donc, c'est ça la question. Je suis d'accord avec... Jusqu'où on ira, soit en termes de rendement, soit en capacité au moins de rentrer dans le principal, à défaut d'avoir les intérêts.
Oui, je peux faire un commentaire. Ce n'est pas directement là-dessus, mais tu es inspiré par une partie de ce que vous avez dit. C'est sur la question des marchés, les marchés de droits à émettre du CO2 que vous avez évoqué. C'est étant donné, en effet, en France, la Caisse des dépôts, enfin, quand même développée au niveau européen et par des bourses. Vous avez évoqué la possibilité d'un marché pour l'emploi des handicapés. Et on pourrait aussi parler d'un marché pour les HLM. Bon, en effet... Quelle est la situation aujourd'hui ? Les entreprises sont obligées d'offrir un certain nombre d'emplois aux handicapés. Celles qui ne le font pas font une amende qui va dans une caisse où l'État se sert quand il a des fins de mois difficiles. Mais c'est pareil pour les HLM. Neuilly doit construire chaque année un certain nombre de HLM, comme Saint-Denis. Mais Neuilly ne le fait pas et paye à une caisse. Et je suis sûr que l'argent a la même destination que celui pour les handicapés, c'est-à-dire qu'il va dans le budget public. Donc il y a moins de HLM et moins de marché et moins d'emplois pour handicapés créés. Nous sommes d'accord. Alors on change de méthode et on dit chaque entreprise a ce quota-là et je crée des inspecteurs et soit vous me montrez ces emplois, soit vous les avez achetés à un autre qui lui l'a créé. Mais je peux vérifier que l'autre l'a créé. Là, une chose est sûre, c'est que tous les emplois seront créés. Nécessairement. Parce que ceux qui ne veulent pas le faire ne payent pas à l'État, ils l'achètent à une autre entreprise qui, elle, l'a créé. C'est ça le principe du permis. Donc vous voulez 100 000 emplois pour les handicapés, vous avez vos 100 000 emplois pour les handicapés. Le problème, c'est que vous les avez dans des entreprises qui se spécialisent dans l'handicapé et qui vendent. Une entreprise se dit, bon, moi je devrais prendre un handicapé l'an prochain. Ok, j'en prends 50. Eh bien, j'en vends 49 à d'autres qui ne veulent pas. Donc, ça va vous créer un prix de l'emploi d'handicapé. Ça va donc vous donner une évaluation de marché de ce que pour une entreprise, ça coûte d'avoir un handicapé plutôt qu'un autre. Sinon, évidemment, le prix serait nul. Et vous pouvez faire la même chose pour les HLM. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des communes qui vont dire, bon, très bien, mais moi, je construis plein d'HLM et je demande à Neuilly de me les acheter. C'est-à-dire les HLM de Neuilly sont construits chez moi, en fait. Bon, justice, efficacité, gain d'efficacité, vous avez le nombre d'emplois voulus et le nombre de mètres carrés de HLM voulus. Problème, ils sont concentrés. Tous les HLM, vous avez un ghetto et vous avez des ghettos de handicapés dans les entreprises et vous avez des ghettos d'HLM. Voilà. Vous avez là un exemple pur du choix entre efficacité et égalité.